C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi avec nos savoureuses partenaires de l'association 4 quarts qui savent comment bien utiliser les œufs.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous régale de bonnes ondes finistériennes. C'est vrai qu'on déguste bien quand nos partenaires de l'association 4 quarts sont là. Vous les retrouvez une fois par mois dans l'émission. Oustol, ça veut dire à table en breton, c'est un jeudi sur deux à 13h30 notamment, il y a plusieurs diffusions, mais l'association qui explore l'alimentation dans toutes ses dimensions, sociales, culturelles, gourmandes, historiques, cette association 4 quarts, elle vient aussi dans l'EM une fois par trimestre. Aujourd'hui, ce sera parfait, comme la forme de notre sujet, comme une recette à succès qui le concerne, un mode de cuisson, disons. Cet aliment a connu des hauts et des bas. Il y a quelques années, on le fustigeait, car paraît-il, il donnait du cholestérol. On sait depuis que c'est faux, et il est tellement apprécié qu'on nous signale régulièrement des pénuries d'œufs. Œufs de poule pour la pénurie, mais on pourra évoquer les autres œufs, y compris, pourquoi pas, ceux de Pâques, hein, puisque c'est bientôt. C'est l'œuf donc qu'on examine aujourd'hui. Nos expertes quatre quartiennes du jour sont Françoise Doucet et Pascal Osier. Bonjour.
Bonjour Véronique.
Bonjour Véro.
Alors on va commencer par une idée reçue. Donc j'avais évoqué le cholestérol et l'œuf. La science nous confirme que la consommation d'œufs n'a pas d'impact significatif sur le cholestérol, en tout cas le mauvais cholestérol sanguin là, ni sur le risque cardiovasculaire. Donc vous pouvez aller manger des œufs, sauf si vous êtes allergique bien sûr, car l'œuf c'est quand même le deuxième allergène après le lait, eh oui. Mais une autre idée reçue contre laquelle Françoise Doucet, qui je vous le rappelle, est ingénieure agroalimentaire, va s'élever, c'est l'idée qu'il faudrait mettre l'œuf au frigo. Hein Françoise ? C'est pas du tout nécessaire.
Non, c'est pas nécessaire, effectivement. Bonjour Véro. Alors il y a deux écoles. Hein. C'est soit le frigo, soit à température ambiante, pour ne pas en fait créer de... Enfin, ce qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est passer de l'un à l'autre régulièrement. Ça fait des micro-fêlures, mais surtout, ça fait un petit peu de condensation sur l'œuf. Et donc, en fait, ça va laver l'œuf et ça va augmenter sa perméabilité. Ouais. Et comme on sait que dans l'œuf, en fait, on a une perméabilité sélective de façon à laisser l'embryon respirer, mais à ne pas faire rentrer des bactéries potentielles venant de l'extérieur. Donc voilà, donc en gros, on lave pas l'œuf et donc on fait pas des allers-retours au frigo pour pas faire de condensation, pour pas que l'œuf se lave entre guillemets avec cette mini condensation et devienne poreux.
Non, puis en fait, c'est oui, Pascal, bien sûr.
Non, je rajouterais que ça vient des Américains, cette histoire de laver l'œuf, et des frigidaires, des réfrigérateurs américains qui avaient un compartiment pour les œufs. Les Américains, lavant leurs œufs, automatiquement, ils les mettaient dans un frigidaire pour, ce que disait François,
oui,
éviter
pour limiter
la contamination. Ouais. Mais à la base, les œufs ne se mettent pas au frigidaire. On les met à température ambiante, on n'a plus à y toucher jusqu'à ce qu'on fasse une bonne recette avec.
Et il n'y a aucun problème. Non, moi, je confirme parce que mes œufs que je garde parfois longtemps, enfin, ils sont dehors, enfin, ils sont à température ambiante. Bon, peut-être que si on les met en plein soleil, ça ne va pas être... Mais bon.
Alors, ce qui est bizarre également, c'est que je pensais aux chaînes logistiques. Quand les œufs sont approvisionnés dans les grands magasins, ils viennent au froid. Et ensuite, ça c'est vraiment un exemple assez parlant. Et ensuite, ils sont laissés à température ambiante pendant une semaine.
Ah bon. Ridicule.
Ils viennent au froid. Ils viennent au froid.
Ils viennent au froid.
Ils les mettent dans des réfrigérateurs quand ils les reçoivent.
Le camion est réfrigéré.
Si tu veux. Il y a d'autres produits que les œufs peut-être.
Exactement.
Et c'est pas un problème.
Et ben en tout cas, il n'y a pas de contamination croisée parce qu'ils sont quand même emballés. Donc ça, c'est une chose, mais c'est juste pour réagir par rapport à la question de la température.
Ah oui.
Donc il y a eu un passage au froid et ils sont mis après à température ambiante. Donc c'est un peu c'est toujours étonnant.
Bon. En tout cas, pour économiser l'énergie, et on sait qu'en ce moment, c'est un petit peu stratégique. C'est pas la peine de les mettre au frais. Voilà, et sinon, combien de temps ça se garde un œuf de manière optimale?
Bah, l'extra frais, c'est les 7-9 premiers jours. Et après, frais jusqu'à 28 jours.
Oui, donc c'est long.
Donc c'est suffisant. Et après...
Après 28 jours, on peut encore quand même les consommer. Hein.
Oui, enfin, moi je fais des œufs durs. Ah
bah ouais. Oui, voilà. L'idée, c'est que le risque salmonelle soit détruit. Et le risque salmonelle, c'est une cuisson de moins de 1 minute à 70 degrés. Donc si vous faites un œuf dur, ou si vous le mettez, vous faites des gâteaux, ou si voilà, il y a des cuissons longues, voilà, faut éviter de faire l'œuf coq.
Ouais.
Voilà, faut éviter de faire. Faut vraiment bien faire cuire l'œuf, mais il n'y a pas de problème si 5 semaines après vous avez envie de le consommer.
D'ailleurs, quand un œuf est extra frais, il y a des usages auxquels il se prête plus ou moins bien, c'est ça, non?
Bah, le risque sanitaire est moindre, donc au niveau des saveurs également, c'est pas pareil.
Si on veut le gober, il vaut mieux qu'il soit extra frais, quoi.
Oui, voilà. Ouais. Ouais, voilà. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que l'œuf ne reste pas toujours le même. Il évolue au cours du temps dans sa composition physico-chimique. Son pH également va devenir de plus en plus basique. Donc au début, il a un pH relativement neutre. Et au fur et à mesure, son pH augmente à 8, voire 9. Et je trouve que c'est intéressant. De le prendre en ligne de compte. Et donc, le fait que on soit sur un pH un peu neuf, du coup, on va stabiliser un peu microbiologiquement aussi, parce que les bactéries n'aiment
pas les milieux trop basiques.
N'aiment pas les milieux trop acides, ça c'est sûr. Ouais. Mais trop basiques, je pense que ça ne leur plaît pas non plus. Et c'est pareil, l'évolution de l'œuf au cours du temps... Le pH donc, va liquéfier le blanc. On n'est plus du tout sur un œuf extra frais et un œuf 5 semaines après, il ne se comportera pas pareil. Il y a la poche des gaz aussi qui va augmenter. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on le voit bien à la cuisson, quand un œuf est vieux et quand on fait un œuf dur, eh ben, il remonte en surface quand il est vieux. Mm-hmm. Ça veut dire que la poche d'échange gazeux augmente au cours du temps.
Il y a des usages pour lesquels il vaut mieux éviter les œufs extra frais, c'est ça? Enfin, ça sera plus difficile, non?
Alors, un œuf dur qui est durci extra frais, personnellement, je trouve qu'il ne s'écale pas bien.
Par exemple, ouais, c'est vrai.
Ouais. Ça, il faut le.
Il y a des trucs hein, pour le. Ouais,
ah oui,
Pascal.
Pour pouvoir éplucher son œuf sans problème. Une fois que vous le sortez de l'eau bouillante, de l'eau froide tout de suite. La casserole, de l'eau froide pendant quelques minutes, et après il s'épluche tout seul.
On le casse et on le laisse une seconde dans l'eau froide de façon à ce que l'eau aille sous la petite pellicule.
Ah, il faut le casser avant de le mettre dans l'eau froide, d'accord.
Ouais, c'est ça. Enfin, on le casse dans l'eau froide et c'est encore plus facile.
Une action mécanique cette fois.
C'est noté.
Merci, mais il y a toujours des bons trucs dans cette émission. Hein. Alors justement, un autre truc, une question que je me pose toujours, c'est que donc si on ne lave pas l'œuf, quand on va le chercher à la ferme, il est un peu sale. Donc tant pis, on le laisse comme ça, quoi. On le frotte pas, on le brosse pas.
Tant pis.
Ouais.
Tant pis. Au pire, si vous vraiment il est plein de paille et plein de fiente.
On les suit avec
une vieille brosse à dents, mais surtout pas d'eau.
Surtout pas. Hein. Encore moins quand il est sale.
Encore moins quand il est sale.
Parce que ça risque de faire rentrer les saletés dans le.
Surtout pas d'eau. Éventuellement une petite action mécanique. Et vraiment, quand on a un doute sur la qualité des œufs, ce qu'on peut faire aussi, quand vous faites un gâteau, vous avez un saladier, ça c'est une super mesure préventive, et vous allez casser par exemple 5 œufs dans le même saladier. Du coup, il vaut mieux les casser un par un à part dans un petit bol et les rajouter au fur et à mesure. Parce que s'il y en a un qui n'est pas bon...
Ce que je fais systématiquement.
Oui, pour éviter aussi que les coquilles tombent dans toute la pâte. Enfin, il faut mieux casser ses œufs à côté, dans un autre récipient, à part. Ça, c'est... Ouais. Et alors, on aimerait savoir aussi la différence, parce qu'il y a les œufs bio, il y a les œufs plein air, il y a les œufs label rouge, il y a les œufs élevés au sol, les poules élevées au sol. Alors, comment est-ce qu'on distingue tout ça?
Par le marquage jet d'encre. Du coup, vous regardez le premier chiffre. Donc 0, c'est bio. 1, c'est... Enfin, ça traduit les modes d'élevage.
Ça, c'est pour les œufs achetés en supermarché.
Ça, c'est pour les œufs achetés en supermarché. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous flashés, tracés avec un jet d'encre. Le 1, c'est du plein air. Le 2, c'est batterie. au sol. Et le 3, ça commence par un chiffre 3, c'est élevé en cage. Mmh. Voilà. Donc, quand on vous vend un œuf, on vous dit c'est un œuf bio. Et si c'est pas, s'il n'est pas marqué 0, c'est pas un œuf bio.
Ah, mais on peut avoir un œuf bio de poule.
De poule non tracée. Oui, oui, tout à fait. Oui. D'œufs non tracés.
Non, mais sinon, des poules qui ne seraient pas élevées en plein air, mais ça peut être bio quand même. Surtout là, avec les épisodes de grippe aviaire.
Oui.
Donc, c'est du bio malgré tout, parce qu'elles ne sont, sont pas nourries aux médicaments. Ce n'est pas la même chose.
Oui.
Ouais.
Et le plein air, ça compte, moi, je pense, dans le fait que ce soit bio. Il y a plein air et alimentation, non ?
Non, non, non. Non, parce qu'en fait, là, avec les mesures prises contre la grippe aviaire, les poules bio, comme toutes les autres, elles sont rentrées à la maison. Hein. Elles n'ont pas eu le choix. Oui. Et le label rouge, qu'est-ce que ça apporte ?
C'est un cahier des charges. Mmh. C'est un cahier des charges spécifique.
Mais c'est plus sur le traitement de la poule, la façon dont elle est soignée, ou c'est plus sur ce qu'on lui donne à manger
Oui, je ne le connais pas particulièrement, ce label. Y a un label que j'achète, moi, en revanche, dont je connais bien le cahier des charges, c'est les œufs bleu-blanc-cœur. Et les œufs bleu-blanc-cœur, en fait, ça veut dire que la poule, elle a été nourrie avec 5% de graines de lin, en max. Et ça va avoir une répercussion sur la répartition des acides gras. Et donc, on va avoir plus d'oméga-3 qui sont bons pour le cardiovasculaire et qui sont bons pour la santé de façon générale. Je ne suis pas médecin, mais ça, c'est reconnu aujourd'hui. C'est un vrai plus parce que au niveau des études, on met en évidence que les analyses de sang sont meilleures quand on mange des produits bleu blanc cœur, et y compris pour les œufs. On peut trouver du bleu blanc cœur pour les œufs, mais pour autre chose aussi, pour du poulet, pour sur des yaourts, sur des fromages, enfin. Voilà. Mmh.
C'est une filière particulière.
C'est une filière particulière. Ouais, ouais. Et là, on est vraiment fléché alimentation à partir de graines de lin. Mmh. Enfin, avec introduction de graines de lin. Pas que la graine de lin.
L'alimentation de l'animal.
C'est l'alimentation de l'animal. Mmh.
Pascal ?
Non, je voulais juste revenir sur la mauvaise réputation de l'œuf il y a quelques années. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il avait cette réputation ? Qu'est-ce qui
Pascal, qui est infirmière quand même, elle a une petite caution santé.
Merci. Donc pourquoi est-ce qu'il a eu cette mauvaise réputation ?
Oui, pourquoi ?
Qui a déclenché ça ? Ça n'a pas été étudié.
Parce qu'il est de fait chargé en cholestérol, le jaune d'œuf. Oui, mais ça ne passe pas dans le sang, en fait.
Ils ont mis du temps à s'en rendre compte. Ça aurait pu être étudié avant, quand même.
Et puis il y a le bon et puis il y a le mauvais cholestérol.
Oui, aussi.
Ça s'est venu dans le temps. Et dans l'œuf, il y a du bon cholestérol. Il y a un peu de mauvais, mais proportionnellement, pas énormément.
Et puis surtout, ça passe pas si facilement que ça dans le sang, en fait. Donc finalement, en fait, on pouvait. Dans l'article que j'avais lu, que je mettrai sur le site internet du podcast, on pouvait aller jusqu'à manger 2 œufs par jour. Enfin voilà, après, si on mange 5 œufs par jour, peut-être qu'il peut y avoir un problème.
Moi, j'ai fait un petit calcul vite fait, puis je me suis aussi dit que Louis XIV, il mangeait plusieurs œufs durs à la fin de chaque repas.
Et il a vécu longtemps.
Ce n'est qu'un cas particulier. Il aurait pu s'étouffer.
Oui, c'est ça.
Alors, je me suis dit, manger 1 ou 2 œufs par jour, en fait, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce que quand, par exemple, je mange une mousse au chocolat, je mange mon chocolat, mais je mange en plus un œuf.
Les œufs, bien sûr.
Dedans.
C'est vrai.
La portion d'une mousse au chocolat, pour moi, quand je fais ma mousse au chocolat, c'est comme si je mangeais du chocolat et un œuf. Par portion. Je me suis dit, finalement, quelle quantité de protéines apporte un œuf ?
Ah oui.
Donc, on est sur un œuf, en calibre moyen, parce qu'il y a des petits, des moyens, des gros, mais on est à peu près sur un 50 grammes, pour faire simple. C'est à peu près 7 grammes de protéines.
Ouais, 5 grammes de lipides et pas de glucides.
Pas de glucides, non. Ouais. Et en fait, dans les recommandations nutritionnelles, on est à peu près sur 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Donc, admettons, je fais 70 kilos, j'ai besoin de 70 grammes de protéines par jour.
Pas 70 œufs.
Non, 70 grammes de protéines par jour. Donc, je ne vais pas manger 10 œufs.
Ben non.
Voilà.
Non, mais ça aide quand même de manger des œufs. Ça, mais, ça fait donc, un apport en protéines.
C'est ça.
Et notamment si en mange... protéines animales.
Et voilà. Mmh. Et donc là, tous les acides aminés sont représentés, les assimilations se font mieux. Mmh. Mais du coup, ça veut dire que si je mange deux œufs, voire même trois œufs, deux œufs entiers, et puis un œuf caché dans une quiche, dans une mousse au chocolat, dans une terrine de poisson, dans un flan aux œufs, dans un ce que vous voulez, bah finalement, j'en mange plus que deux par jour. Deux.
Ouais, c'est vrai aussi. Hein.
Mmh. Voilà. Mmh.
Il faut y penser. Alors là, on parle évidemment, on parle essentiellement des œufs de poule. On peut peut-être dire un mot d'autres œufs parce que, alors, si ce qu'on trouve en supermarché souvent, c'est les œufs de caille.
Oui.
Pour les fêtes, voilà. Bon, c'est toujours sympa. Hein, oui. Les petits œufs à l'apéro, là.
C'est drôlement sympa. Puis ils ont une super couleur de coquille en plus,
c'est vrai, c'est
vert,
joli.
Brun, moucheté. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, la couleur de la coquille,
ah oui, c'est vrai.
N'a rien à voir avec la qualité de l'œuf.
Non.
C'est vraiment lié à la race.
De la poule, oui, tout à fait.
De la bestiole. D'ailleurs, j'avais, bah, je ne l'ai pas sortie là, mais j'avais une poule qui, je ne me souviens plus, je crois que c'est la Maran.
Ouais, si
c'est
qui la fait marron, des œufs marrons, tout à fait.
Qui fait des œufs cuivrés, noirs argentés, voilà. Et il y en a une autre, la Rocana, qui fait une coquille verte et bleue. Enfin, verte bleue, ah, couleur céladon,
ouais.
Quoi, en fait.
Ouais, je ne sais pas si c'est
donc c'est trop
appétissant.
Top. Et ça, c'est vraiment lié, c'est vraiment lié à la bestiole, quoi.
Oui,
en
oui
fait,
c'est
hein.
Ça. Voilà. Ouais, tout à fait.
Donc ça, c'était sur la coquille.
Non, mais là, on parlait des différentes sortes d'œufs, des œufs autres que des œufs de poule. Bon, bah, moi, j'ai eu l'occasion de manger des œufs d'oie. Alors, un œuf d'oie, c'est l'équivalent de deux œufs de poule au moins. Hein. C'est très bon, enfin, en termes de goût, rien à dire. Hein. Oui. C'est très bon aussi.
Alors, plus riche en, pardon, plus riche en lipides, l'œuf d'oie.
Oui.
Et l'œuf de canard aussi. Plus riche en lipides, en vitamine B12 aussi.
C'est pas facile à trouver, ceci dit. Enfin, par chez nous, en tout cas.
C'est plus compliqué. Et ce que j'ai trouvé surprenant, parce que j'ai fait un petit peu de biblio avant de venir, c'est qu'il faut les faire cuire l'œuf de canard et l'œuf d'oie plus longtemps. Alors, il y a la question de la grosseur de l'œuf, mais il y a la question de la porosité. Cet œuf, pour le canard et la poule, est plus poreux.
Ah
et
ouais.
Pour sanitairement, pour éviter les risques, eh ben, on peut cuire un œuf de canard jusqu'à 15 minutes.
Oh, donc c'est long. Bah voilà. Oui, mais alors ça sera forcément un œuf dur. Alors oui, on peut pas le manger, on peut pas tremper ses mouillettes dans le jaune. C'est dommage.
Bah, du coup, c'est vrai que c'est une vraie question. Après, moi, j'ai jamais mangé d'œuf de canard ou d'œuf d'oie à la coque. Et puis l'œuf de caille. Au niveau de sa composition, est intéressante parce que sa quantité de vitamine B12 est 15 fois supérieure à l'œuf de poule.
Ah bon ?
Donc j'ai trouvé ça super intéressant.
Ah ouais, en effet.
La B12. Ouais, c'est ça. Puis la B12, elle est intéressante pour au niveau sanguin.
Ouais.
Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est au niveau sanguin. Et puis l'œuf. Alors il y a des œufs de pintade, des œufs d'Inde. Des œufs d'autruche, hein, c'est 25 fois un œuf de poule, un œuf d'autruche.
Il y a de quoi faire une omelette pour plusieurs. Ouais.
Et l'œuf de caille, au niveau cholestérol, c'est que du bon cholestérol ?
C'est bien en cholestérol.
C'est bien en cholestérol.
C'est très bien. D'accord. Il a un goût très délicat, l'œuf de caille, visiblement.
C'est vrai.
Il se rapproche, j'ai fait une étude comparative, il se rapproche plus ou moins, des petites variations près, de l'œuf de poule. C'est vraiment le canard et l'oie qui sont très très différents, qui ont plus de gras, en fait. Ouais, c'est ça.
Et donc, on pourrait parler aussi des œufs de poisson, vite fait. Bah, c'est très bon, mais c'est là on sort un peu
les
du sujet.
Les œufs de poisson, les œufs de truite, les œufs de saumon, les œufs de lompe, les œufs d'esturgeon, hein, c'est le caviar. Alors, le tarama. Me suis dit qu'on mangeait du tarama.
Oui, bien sûr.
Et que le tarama, c'est une spécialité grecque, ou en Turquie aussi, ils aiment bien manger du tarama. Mmh. Et c'est des œufs de mulet, de cabillaud.
De cabillaud,
mais du coup, ils rajoutent aussi un colorant. Parce que ça fait rose, mais ils rajoutent un colorant et ils mélangent ça avec du lait, du jus de citron, de l'huile, du pain de mie.
Eh bien, on peut faire soi-même son tarama, ce qu'on fait chez moi.
Oh,
et
génial.
Et oui, on achète des poches d'œufs de cabillaud. Voilà. Et en fait, il est bien plus goûteux que celui qu'on achète tout fait. Et ça, on vous le garantit. Alors, pour revenir aux œufs de poule, puisqu'en fait, c'est quand même l'œuf majoritairement composé, là, on a pu quand même constater ces dernières années qu'il y avait de temps en temps des problème de pénurie, alors pas totale, mais est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que l'œuf dur mayonnaise triomphe dans les buffets de fête, Françoise? Est-ce que c'est pour ça?
Écoute, enfin, j'ai du mal pour l'instant à relier la pénurie d'œufs à quelque chose.
C'est de toute façon, c'est un fait que l'œuf a fait un vrai retour en grâce dans la consommation.
Ça, c'est sûr qu'on en mange plus puisque le coût de la protéine d'œuf est aussi bonne que la protéine de viande ou la protéine de poisson, à un coût largement moindre. Donc, en termes de consommation, on consomme plus d'œufs au détriment de viande et de poisson.
Oui, Pascal ?
Mais est-ce que si l'œuf manque, on peut se poser la question, et là, c'est peut-être la poule qui manque aussi ?
Oui, alors peut-être qu'il y a des problèmes d'élevage, mais en fait, c'est surtout la demande pénuries d'œufs. Il y a eu des demandes énormes. C'est l'industrie agroalimentaire, elle transforme beaucoup d'œufs. Donc, après, c'est pas forcément les œufs que nous on mange. Si on va à la ferme, on verra pas la différence. Hein.
Les casseries d'œufs sont soumises aussi à des normes sanitaires assez drastiques, avec la mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire. C'est pas facile à mettre en place. Ça peut être un frein. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de le voir une fois ou deux dans des exploitations. Bon, voilà. Après, je fais pas d'un cas une généralité. Hein.
Il suffit d'avoir des poules dans son jardin et tout est réglé, n'est-ce pas ? En sachant que la poule, elle a une ponte quand même saisonnière. Il ne faut pas espérer. Il y a des périodes où on aura moins d'œufs. Hein. Voilà.
Et en fonction de l'espèce des poules aussi, elles pondent plus ou moins. Il y a des poules vraiment très pondeuses et des poules même moins pondeuses. La bourbonnaise, par exemple, ou la fermière la plus classique, elle est à 200 œufs par an. Et par exemple, il y en a la gâtinaise, elle est à 160, 170, donc il y a une vraie variation.
Il faut se renseigner.
C'est en hiver, surtout qu'elle pond moins.
Oui, elle pond moins en hiver, oui, dans l'ensemble. Alors, il nous reste quand même un petit peu de temps pour parler des usages en cuisine. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres trucs et astuces, à part pour égaler les œufs, est-ce qu'il y a d'autres trucs et astuces à savoir, non ? Des idées que vous auriez pour les utiliser, non ?
Pour utiliser l'œuf ?
Ouais, enfin pour que ça soit plus facile ou non ? Bon, on va passer aux recettes. Alors
moi, je me suis toujours posé la question aussi en cuisine, pourquoi on reste avec un emballage carton ? Là, c'est vraiment une considération purement hygiénico-hygiénique. Un emballage carton qui n'est pas lavable et qu'on va mettre soit à température ambiante, donc ça, c'est pas grave, soit au frigo. Mais si on le met au frigo, du coup, il y a des risques de contamination aussi avec le reste. Donc, moi, j'aurais préféré que ce soit une boîte plus...
Alors, moi, je suis pas pour les plastiques, donc je suis absolument pour l'emballage carton. Je pense qu'il y a des raisons d'amortissement des chocs aussi.
Je
pense que pour le transport,
j'avais pas pensé à ça.
Ça fait amortissement, voilà. Amortisseur, pardon. oui, alors, les recettes, qu'est-ce que vous faites, vous, avec vos œufs, mesdames ?
Je pense que l'œuf, c'est quand même un produit assez magique. En lien avec toutes les propriétés qui lui sont conférées. Alors, je me suis d'abord avant ça, j'avais un peu envie de dire, ouais, mais l'œuf parfait, qui fait...
Ah oui, alors ça, c'est vraiment la mode, l'œuf parfait. Qu'est-ce que c'est un œuf parfait,
L'œuf parfait, c'est un œuf qui est cuit à très basse température.
70 degrés, pas plus.
Alors, du coup, comme la coagulation... Alors, je dirais même moins, même 64.
D'accord.
Puisqu'on va essayer de trouver un point de cuisson entre la coagulation du blanc, qui est à 62, et la coagulation du jaune, qui est à 68.
Ah oui, en effet.
Et du coup, comme ça, on va avoir une même consistance moelleuse entre le blanc et le jaune. Et c'est ça qui fait dire que c'est un œuf parfait.
Pour la coque.
C'est
un œuf à la coque.
Ben non, justement.
Non, c'est pas un œuf à la coque.
On peut le faire comment ? À la poêle ?
Non.
Le casse, hein, c'est ça. Ouais, et c'est un peu comme l'œuf poché. Il est cuit dans l'eau, même l'eau. Quoi.
Ah. C'est ça, à basse température. Et c'est Hervé Thys qui est un chimiste. Mais en lien avec l'alimentation, qui l'a mis en évidence il y a quelques années, et Pierre Gagnaire, donc un 3 étoiles au Michelin, l'a mis en expérimentation aussi. Et donc dans les restos, les œufs parfaits, c'est hyper tendance.
Dans une crème de champignons, voilà. œuf parfait dans une crème de champignons. Bon, après, moi, en termes de cuisson, finalement, je préfère quand même l'œuf mollet. Hein.
Moi, c'est l'œuf à la coque.
Alors, l'œuf mollet, 6 minutes. L'œuf à la coque, 3 minutes. L'œuf dur, 10 minutes.
Voilà, tout simplement.
Voilà. Alors après, je dirais que ça dépend aussi du calibre de l'œuf. Hein, parce que si vous prenez un œuf gros calibre, ça sera 4 minutes pour avoir un œuf à la coque.
Oui, alors justement, il y a deux écoles pour l'œuf à la coque. Ah. Les personnes qui attendent que l'eau boue et qui mettent l'œuf dedans, et là, c'est une minute ou trois minutes.
Non, c'est trois minutes.
Et par contre, quand on le met tout doucement et que ça monte en température, c'est une minute une fois que ça boue.
Tu as testé les deux ?
Oui.
Et alors ?
Trois minutes, c'est bien, en fait.
Trois minutes dans l'eau bouillante. Allez, hop, parfait. À juger.
Pas que l'œuf, des fois, ça peut casser la coquille aussi. Il faut faire attention, ça la fragilise. Donc, j'aime aussi, finalement, mieux le mettre dans une eau à température ambiante et que ça monte en température.
Ah oui. Mais sinon, moi, mes œufs, ils cassent pratiquement plus depuis que je ne les mets plus au frigo. Hein, parce qu'avant, c'était le différentiel de température. Mais non, bah oui, c'est ça. C'était le différentiel de température.
Non, non.
Alors, par rapport aux propriétés magiques de l'œuf, donc, on a son pouvoir émulsifiant, donc là,
pour la mayonnaise,
qui va servir pour la mayonnaise, exactement, parce que du coup, ça stabilise des phases non miscibles entre elles. Donc, la mayonnaise va tenir et va pas redescendre. Une autre propriété de l'œuf qui fait que l'œuf est magique, c'est ses propriétés moussantes. Et donc, le blanc d'œuf, les œufs en neige,
les soufflés.
C'est extraordinaire. D'autres types de propriétés, les propriétés gélifiantes, par exemple avec le flan. Voilà. Alors après, des idées recettes. Bon,
On les mettra sur le site parce que là, on a plus de temps.
Voilà. Qu'est-ce qu'on
et on s'arrête là. Non, on s'arrête là. Là, c'est l'heure. Désolée. Merci beaucoup à toutes les deux. Elles reviendront. Les amis de 4 quarts dans l'EM. Il y aura une autre émission. Ce sera le 16 juin et on parlera alimentation à l'ère du changement climatique. À bientôt.